que on ait trouvé depuis ces annonces-là entre 400 ou 500 employés provenant de la Côte-Nord pour remplacer ce personnel-là était très mince.
Le bassin démographique n'est juste pas là.
Puis on comprend que 98% du personnel d'agence proviennent de l'extérieur de la région. Et puis on pourra bien faire des milliers de campagnes de promotion, mais si les gens en général qui travaillent dans ces agences proviennent de Montréal, ils vont pas déménager sa Côte-Nord, quoi que ce soit, une très jolie région. Et les probabilités aussi que s'il y a des professionnels qui sont dans les agences envisagent l'option d'intégrer le réseau public parce que c'est ça la stratégie du gouvernement, mais comme ils proviennent en général de Montréal et Québec, ils vont rester dans les régions de Montréal et de Québec. Donc, ils risquent d'avoir aussi des problèmes en région ailleurs aussi au Québec, parce que le recours aux agences, en ce cas, c'est ce que j'ai un peu creusé, il est très utilisé, notamment en région. Deuxième chose, on parlait d'un déploiement progressif qui devait assurer les services aux patients, aux patientes. Que des patients qui doivent avoir une intervention plus spécialisée doivent aller ailleurs, ça peut s'expliquer. Mais quand tu es dans la pouponnière qui se ferme, y a-t-il quelque chose de plus... la proximité.
C'est la base.
Ben oui, exactement. Alors, les services à domicile, ça se déplace pas. Les services externes en santé mentale, ça se déplace pas non plus. Fait que là, il y a le quoi et le comment. Pour le comment, en général, il y a deux chemins. La stratégie des petits pas ou le coup de barre. Alors là, on a choisi le coup de barre, mais là, ça s'apparente à un coup de massue parce que les changements ont des conséquences extrêmement concrètes pour des services de base, de santé de base pour les gens. Alors là, on comprend que le ministre, le gouvernement veulent éliminer la présence du personnel. Leur stratégie, c'est de convaincre le plus de gens de ces agences de rentrer dans le rang du réseau public. Il y en a combien qui l'ont fait jusqu'à maintenant? Il y en a combien qui le feront? Puis si les cibles ne sont pas rencontrées, c'est quoi le plan B? Parce qu'il y a un risque que les cibles ne soient
pas...
Oui, qu'on n'arrive pas à transférer ce personnel-là pour mieux garnir le réseau public.
Ce que les agences disent, Diane, c'est que il y a beaucoup de leurs membres, de leurs employés, qui veulent pas aller travailler comme salariés dans le public, qui vont aller faire
pour
autre chose.
Pour toutes sortes de raisons.
Pour toutes sortes de raisons. Puis, on le sait, les conditions dans le public sont souvent difficiles. T'es infirmière salariée dans le public, on va te dire à la fin de ton quart de travail, tu continues. Mm-hmm. Si tu es dans une agence, tu as le privilège de ne pas faire de temps supplémentaire obligatoire. C'est juste un exemple.
Exact. Puis dans les dernières négo, quoi qu'elle n'ait pas complétée avec la FIC, le gouvernement et les syndicats se sont entendus pour reconnaître lorsque des gens du privé accepteraient de venir dans le public pour reconnaître l'ancienneté, par exemple. Est-ce que ce sera suffisant? C'est ça qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait si les cibles ne sont pas rencontrées? Alors moi, j'aimais la piste suivante parce que là, il y a évidemment un bras de fer entre le gouvernement, le ministre. Peut-être qu'il y en a aussi entre les régions et le gouvernement. On ne sait pas. Les agences privées. Là, il va falloir, se centrer sur les patients. Je pense que c'est ça la priorité. Puis, entre vouloir que tout soit public, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver? Parce que là, c'est ça notre thèse. C'est, par exemple, à la région de Montréal, moi, je comprends qu'il n'y a pas si longtemps, là, les agences privées ont comblé 340 000 quarts de travail. Ça se trouvera pas du jour au lendemain. Fait qu'entre ça, tout, puis rien du tout, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver pour qu'on puisse tirer bénéfice aussi de l'agilité que peut proposer le recours à des agences privées? Alors, le public n'est pas parfait, le privé non plus, mais on peut joindre le meilleur des deux mondes. Fait que moi, je vois M. Dubé, je connais
qui
un peu...
Qui lui tient la ligne dure.
Oui, mais en général, il est calme, il est fâché, là. Mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Puis rappelons-le, il y a des gens qui sont touchés par ces mesures-là.
OK, parlant de services publics, oui. Tu voulais aborder ça hier, on n'a pas eu le temps de le faire, mais tu veux aborder la question de la pénurie d'eau au Nunavik. Il y a des communautés là-bas, 14 villages communautés, qui sont tout simplement pas desservis par un réseau de distribution d'eau et d'égout, l'eau courante, en fait, l'eau potable, c'est livré par camion.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on ferait de notre vie sans eau potable? Puis j'avais l'impression qu'il y avait eu des investissements importants de la part du gouvernement fédéral, de Québec. Il y a eu des engagements du gouvernement Trudeau. J'ai lu récemment le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement. C'est consacré comme étant un droit qui a fait une visite au Canada, qui a été à la fois intéressé par les progrès, mais en même temps indigné, parce qu'il dit, j'ai été témoin de notamment de la marginalisation des Premières Nations qui n'ont pas accès à l'eau. Alors, il y a eu un recours collectif l'an passé, très important, qui a donné lieu à un règlement entre le gouvernement et les communautés autochtones, 8 milliards de dollars, mais ça corrige les situations passé, en fait, ça compense pour des situations passées. J'ai parlé cette semaine à Michèle Audette, sénatrice, ancienne présidente des femmes autochtones, qui me disait se rappeler, petite fille, ce que ça voulait dire, ne pas avoir d'eau potable dans sa communauté puis dans les communautés environnantes, et qu'elle constate que les progrès, ils sont pas au rendez-vous.
Je pense qu'il y a des communautés qui ont vu leur accès à l'eau potable améliorer.
Oui, mais il reste pas mal de monde sur le corps.
Disons que ce que le gouverneur Trudeau a promis à son arrivée en 2015, ça prend un peu de temps.
Je comprends aussi, en ayant parlé à des gens, faire quelques recherches, c'est beaucoup autour de la qualité des infrastructures. Si elles existent, mm-hmm. elles n'ont pas été entretenues, elles brisent plus facilement. Elle coûte cher à réparer. On est souvent dans des communautés éloignées, donc tout coûte plus cher. Mais là, c'est un cercle vicieux. Écoutez, on envoie du monde sur la Lune, là. On peut-tu fournir de l'eau à notre monde?
Bonne observation.
Voilà.
Merci beaucoup, Diane. On va se retrouver demain. Monsieur McSween est là au retour.
La chronique mi-chaud, mi-froid, une présentation de Point S Garage Martin-Roy de Sainte-Luce.
Novarium, c'est un projet qui a été développé pour rendre Rimouski innovante et aussi la positionner dans les recherches de la mer, sciences de la mer. Alors, il y avait un président directeur général qui était là, qui avait le mandat de gérer les deux. Et il y avait une certaine latitude pour gérer des sommes. Et il y a un déplacement de sommes qui s'est fait vers Novarium que la ville essaie d'expliquer et peut-être évidemment de récupérer. Ben, la personne irait, louerait les espaces, utiliserait ça pour faire ses recherches puis tout ça pour essayer de les transférer en appliqué. Ouais. On appelle ça la recherche appliquée, c'est-à-dire que ça serve à quelque chose au bout de l'année. Un petit salmigondi ce matin. Oui. Deux ou trois sujets.
Un melting pot.
Un melting pot en anglais. Fait qu'on a fait les deux. On a été bilingual, là, c'est correct. On a respecté l'esprit du fédéralisme canadien.
Du lundi au vendredi à 8h15.
Votre vision est dérangeante. Vous ne voyez plus aussi bien qu'avant. Vous êtes déçu de vos lentilles intraoculaires. Vous n'aimez pas porter de lunettes. Au centre ophtalmologique de l'estuaire, plusieurs solutions visuelles sont disponibles à divers problèmes oculaires. Prenez votre premier rendez-vous dès maintenant pour évaluer la santé de vos yeux. Notre équipe vous présentera les options qui s'appliquent à vous. Notre parcours cataracte a reçu la note de 98,3% à la visite d'Agrément Canada. Appelez au centre ophtalmologique de l'estuaire au 418-723-2016.
Hey, salut Denise, je rentrerai pas travailler à la cantine. Je viens de gagner au Lotomax.
OK, et puis demain?
Prochain tirage, 60 millions plus 6 max millions.
Le dimanche 26 mai prochain, des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes marcheront afin de soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques. En vous inscrivant à la marche SP et en collectant des fonds, vous offrez votre appui aux personnes atteintes et contribuez à leur assurer une meilleure qualité de vie. Inscription à marchesp.ca ou sur place dès 8h. La cérémonie d'ouverture est à 9h et le départ est à 10h. C'est un rendez-vous le 26 mai prochain au Parc au séjour de Rimouski pour une journée plaisante avec nos présidents d'honneur, Pierre Chassé et Jean-Maxime Mercier.
Pièces d'auto économiques de Rimouski et Rivière-du-Loup vous offre des pièces pour votre auto ou votre camion au meilleur rapport qualité-prix de l'industrie et vous invite à choisir le meilleur endroit pour faire réparer votre véhicule. Allez dans un atelier mécanique Automécano ou Octo de votre secteur. Vous aurez un travail bien fait, garanti et selon votre budget avec des pièces de qualité. Automécano et Octo, votre partenaire de pièces d'auto économiques à Rimouski.
L'émission de Jean Brisson, une présentation d'Alarme 911 Rimouski. Offrez-vous la tranquillité d'esprit avec un bouton médical d'Alarme 911 Rimouski. Les secours dont vous avez besoin au bout de votre doigt au 418-722-9111.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Bon, tu veux nous parler des chats rugissants de l'Internet qui ont un impact en bourse.
En fait, c'est un seul, il s'appelle Keith Gill. Écoute, je sais pas si tu as vu le film Dumb Money.
Non.
Okay. C'est l'histoire de Keith Gill qui était dans son sous-sol, faut le dire, et lui, il croyait beaucoup au titre GameStop à l'époque. Et les fameuses boutiques où on vend des jeux vidéo. Mm-hmm. Et lui, il avait beaucoup dit, écoute, aux gens, écoutez, là, il y a des vendeurs découverts, achetez le titre, on va battre Wall Street. Puis là, il y a un mouvement de foule qui est arrivé il y a 3 ans. Et il a fini par éventuellement, ce qu'on sous-entend, c'est faire beaucoup d'argent avec ça, mais surtout, faire planter des fonds de capital de risque qui avaient misé, disons-le, ou d'hedge funds qui avaient misé contre le titre de GameStop. Donc, il a, par un effet d'entraînement de petits investisseurs de foule, il a réussi, à, dans le fond, à contrecarrer les plans des gens qui spéculaient contre un titre. Et comme il a surgi depuis 2 jours de l'Internet, Patrick, il a surgi, il a dit après 3 ans, il sort de sa tanière, mais...
He's back,
mais il n'est pas juste back, là. Il commence à faire des vidéos avec des messages sous-entendus, avec des scènes de films montées du titre. « Fine, I'll do it myself », donc je vais le faire moi-même. Ah, ça sera fini quand je dirai que ce sera fini. Donc, tu comprends, il envoie des messages, vraiment. Il a même fait une vidéo où il y a le signe de Batman, mais c'est un chat dans le ciel, tu comprends? Et il n'y a qu'un corps à faire, c'est de l'appeler. Donc, on sent qu'il s'en revient, ou qu'il menace de s'en venir, ou qu'il envoie un message, qu'il revient envoyer des messages à la plèbe, tu comprends?
Il y avait eu un gros impact sur le marché, là.
Il y a un gros impact, parce que d'ailleurs, juste de revenir sur Internet, Patrick, les titres sur lesquels il avait misé à l'époque, qu'est-ce que tu veux, ou dont il avait fait la promotion, sont à la hausse. Donc, tous les titres qui sont vendus à découvert présentement, donc contre lesquels le marché mise, sont revenus un peu à la hausse. Donc, GameStop a pris une croissance incroyable, AMC aussi, mais ce sont des titres dont les rendements financiers ne sont pas favorables. Ce sont des titres qui n'ont pas, disons, la faveur des résultats financiers. Et donc, il est en train, à lui seul, dans son sous-sol, sur certains titres, avoir un impact juste par sa présence. Alors, je t'amène ailleurs. Imagine-toi si Taylor Swift arrivait au micro, puis qu'elle disait « Hey tout le monde, j'ai acheté des actions de Cogeco, c'est incroyable! » Imagines-tu ce que ça ferait? Elle aurait un impact sur la bourse.
Elle casserait l'Internet et la bourse.
Ben, c'est là que ça devient dangereux, parce que, tu sais, créer des mouvements organisés de trading, c'est pas vraiment légal. Hein? C'est ce qu'on appelle, disons, des délits d'initié parfois. T'sais.
Mais c'est pas né avec l'Internet, c'est comme non plus.
Non, il y avait du pump and dump, mais c'était undercover. Hein? C'était sous le couvert de l'anonymat, si tu veux. Là, si tu le fais publiquement, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Donc, t'as juste à dire, ceci n'est pas un conseil, mais il embarque dans des mouvements de promotion de sites de titres et de donner de l'information sur des titres. Et ça, c'est pas illégal. Et c'est ça la juste limite de dire, est-ce que tu es en train d'essayer de manipuler le marché? Non, tu ne fais que donner de l'information. Alors, l'Internet a brisé les conventions. Mais écoute, c'est sûr qu'il n'ira pas jouer contre la Banque Royale ou contre des titres qui n'ont pas assez de volume pour être capable d'avoir un impact. Mais sur des titres à découvert, à faible volume, où il y a des problèmes ou disons qu'il y a des mises contre le titre dans les marchés boursiers, c'est sûr qu'il peut avoir un impact. Et c'est vraiment spectaculaire parce que les titres, par exemple, ont pris 30, 40, 50, 60 % en dedans d'une journée à cause de son intervention. C'est pas des peanuts.
Oui, non, c'est immense, là. Si je comprends bien, ils peuvent pas bouger le marché au complet, mais quand ils s'y mettent, ça peut avoir un impact assez important.
Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens dans les médias, ne sous-estimez pas les médias parallèles. Reddit, oui. Et on voit des choses qui naissent là-dessus. Et donc, ça, c'est né sur Reddit. Et d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu connais l'application Robinhood, mais c'est l'application avec laquelle les jeunes transigeaient directement des titres boursiers. Et cette application-là a été beaucoup critiquée pour diverses raisons, mais elle a été aussi critiquée parce que c'est comme un jeu vidéo. Quand les gens investissaient puis faisaient un gain, c'était comme un affichage, disons, un peu casino. Et donc, ils ont été poursuivis par un État pour ça, et ont réglé à l'amiable, évidemment, parce que, justement, on jouait avec le jeu et l'investissement, alors que ça devrait pas être mis dans la même logique d'affaires, disons.
Deuxième sujet, Pierre-Yves, les libéraux ont encore beaucoup de chaleur à Ottawa,
oui,
là, avec cette idée-là d'augmenter le gain en capital, l'imposition sur le gain en capital. Est-ce que tu penses que la mesure va être reportée?
Écoute, il y a un article d'une comptable, c'est fellow Kim Moody au Financial Post, qui dit dans le fond, elle a dit, je suis persuadé que ça va être reporté ou peut-être même annulé. Là, il y a tout un débat, évidemment, sur ça. Mais j'ai souligné un cas ce matin, aujourd'hui. Disons que je te prends de l'argent il y a 20 ans, Patrick. J'ai investi de l'argent en 2004. Ça, c'est à l'époque où toi et moi, on était plus jeunes. Donc, en 2004, t'as investi 100 piastres. Le calcul